Voilà, bienvenue encore une fois à vous tous, bienvenue aux auditeurs de Radio Espérance pour cette entrée dans l'heure sainte de ce mois de février, dans cette année où nous creusons ce mystère de l'amitié avec Jésus, comme nous le rappelait le Père Benoît en novembre dernier, alors qu'il parlait en citant Marguerite Marie avec cette citation « Trouver l'occasion de prouver notre amour à cet unique ami de nos cœurs ». Voilà, nous sommes dans ce cheminement où nous approfondissons notre suite du Christ pour être pleinement ses disciples missionnaires, comme le pape aussi le souhaite pour toute l'Église, pour tous les baptisés. Eh bien, nous savons que cela passe par ce mystère de cette relation d'amitié avec Jésus. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes amis. Je vous ai choisi. Je prendrai 3 temps pour nous introduire à cette veillée avec Jésus à Gethsémani. 3 temps, d'abord une introduction avec cette icône qui va nous accompagner ce soir, que peut-être certains d'entre vous connaissent, que je vais décrire pour ceux qui ne la voient pas, en particulier nos sœurs qui la voient sur la tranche. Nous prendrons à nouveau le temps de nous appuyer sur quelques versets de l'Écriture avant de terminer en 3e point sur notre belle figure de notre compagnon Claude. Nous sommes dans la vigile du 2 février et vous savez qu'un certain 2 février 1641 naquit Claude à Saint-Symphorien d'Ozon. Et c'est donc c'était il y a 377 ans exactement. Et en 1675, le même jour, 2 février, il faisait ses derniers vœux, quelques semaines juste avant d'arriver à Paray-le-Monial. Voilà, donc c'est un beau clin d'œil que le Seigneur nous fait de nous permettre de nous retrouver ce soir, veille du 2 février, en ce lieu si beau, si fort de Paray-le-Monial, pour vivre cette heure d'amitié, d'adoration, de prière avec Jésus. Alors pour nous introduire et poursuivre ce chemin d'approfondissement de l'amitié avec Jésus, j'ai disposé au pied de l'autel, au-dessus duquel sera déposé le Saint-Sacrement tout à l'heure, eh bien cette belle icône copte du 7e siècle qui s'appelle Jésus et l'abbé Ménat, qui a été popularisé, entre guillemets, on pourrait dire, par frère Roger, notre voisin de Thésée, qui l'a adopté pour sa communauté, et elle a pris ce nouveau nom de l'icône de l'amitié, Jésus et son ami. Jésus et son ami, l'abbé Ménat, un abbé qui a vécu à la fin du 3e siècle. Prenons simplement le temps de nous laisser habiter par ces deux personnages qui sont côte à côte et qui nous disent cette relation d'amitié dans laquelle Jésus veut nous introduire. Alors pour ceux qui ne la voient pas, eh bien vous pourrez aller sur Internet la récupérer, ou bien plus simplement pour ceux qui sont ici, d'aller peut-être en pèlerinage aussi un jour à Thésée pour la voir de la même taille, dans la chapelle de la Réconciliation. Cette icône, donc du 7e siècle, ne cherche pas à faire de l'esthétisme, mais elle cherche à nous faire rentrer dans l'expérience de foi. Ce que vous pourrez regarder, un jour ou l'autre, en la regardant de plus près, eh bien c'est déjà cet échange de regards. Cet échange de regards, ce n'est pas entre eux deux, c'est eux vers nous. Leur regard est orienté dans la même direction et cette direction vient nous rejoindre. Une manière de rappeler combien l'amitié, être ami avec quelqu'un, c'est pouvoir regarder ensemble dans une même direction, dans une même direction. Une manière aussi de nous dire à travers cette icône que celui qui est cherché, c'est aussi nous. C'est chacun de nous qui est recherché, comme pour l'inviter à rentrer à son tour dans cette relation d'amitié. Cette icône est caractéristique aussi par le bras que Jésus pose sur son ami, l'abbé Mena. Jésus, c'est le personnage de droite, et il pose sa main délicatement sur l'épaule de l'abbé Mena. Image assez peu habituelle, représentation assez peu habituelle de Jésus. Bras protecteur, bras qui aussi confie, qui confirme, qui donne une mission à son ami. Bras de l'amitié, bras du lien, d'un lien qui n'emprisonne pas, mais qui relie fortement. Vous pourrez constater aussi combien la taille de la tête, de leur tête, est peut-être assez disproportionnée par rapport au reste du corps. Une manière de nous dire, de nous faire entrer aussi dans l'expérience, la dimension spirituelle, avec des yeux qui sont larges, très grands, tout ouverts. Tout ouvert. Mais dans le regard de Jésus, il y a peut-être une sorte de dissymétrie. Un de ses yeux regarde vraiment droit devant lui. Mais l'autre est un peu tourné vers son ami. Attention. Cette attention que Jésus a sur chacun de nous. Mais encore une fois, un regard qui envoie vers le large. La taille des yeux dit cette vision, cette qualité du regard dans lequel nous sommes invités à rentrer, cette profondeur du regard qui voit au-delà des apparences, qui voit jusque dans la profondeur des êtres. C'est la qualité même de Dieu qui ne regarde pas l'apparence, mais qui regarde en profondeur. Devenir l'ami de Jésus, c'est rentrer, c'est participer à ce regard de bonté, de bienveillance. Un regard intense, mais un regard doux. Un regard qui n'est pas inquisiteur, mais un regard qui fait du bien. Les deux personnages portent dans leurs mains quelque chose. Jésus porte un livre, il est la parole vivante. Il a la plénitude, il est la plénitude de la parole de Dieu. Et son ami porte juste un petit rouleau, un petit papier. Il est gardien d'un trésor que lui confie Jésus, mais c'est Jésus qui est le trésor lui-même. Il a besoin d'être relié à Jésus, la parole véritable. La parole complète du Père, le Verbe éternel. Un petit détail que vous pouvez remarquer, c'est seulement un des deux personnages a des pieds. Le deuxième, les pieds n'apparaissent pas. Jésus ne montre pas ses pieds, ne laisse pas apparaître ses pieds. C'est seulement l'abbé Mena, une manière de nous dire que c'est lui qui est envoyé par Jésus pour aller à la rencontre. Jésus est comme porté par son ami. Qualité de l'amitié avec Jésus, le porter. Nous devenons les pieds, les mains, le corps de Jésus au cœur de notre monde. Lui qui accueille tout homme, qui est venu pour rencontrer tout être vivant, tout homme, toute femme de notre humanité. Il a choisi de passer par nous. Et dans cette relation d'amitié qu'il tisse avec chacun de nous, il nous dit aussi le désir que nous puissions porter cette relation d'amitié au-delà de nous, autour de nous. Il y a une qualité de relation humaine, de relation fraternelle qui nous fait introduire dans le mystère de Dieu. Enfin, le dernier point, le septième point que nous pouvons remarquer dans cette icône qui nous accueille ce soir, qui nous accompagne ce soir, eh bien, à la fois, c'est quand on la regarde, elle est simplement sur deux dimensions, il n'y a pas de profondeur, mais en fait, comme je vous le disais au tout début, il y a une profondeur. La profondeur vient et donnée par notre présence, par notre présence. Il y a une sorte de perspective inversée, contrairement aux œuvres artistiques qui nous font plonger dans l'œuvre et nous font croire à une perspective, illusion d'optique. Ici, la perspective vient par celui qui ose regarder cette relation d'amitié qui s'offre à son regard, se laisser rejoindre, se laisser toucher. Laissons-nous porter donc par cette icône de l'amitié. Comme toute icône, elle parle d'elle-même, nous avons à la laisser parler. Dans la prière, elle pourra continuer à venir nous instruire sur cette douce relation d'amitié que Jésus veut tisser avec chacun d'entre nous. Avec cette image délicate qui s'imprime dans notre cœur, nous pouvons laisser résonner quelques passages bibliques, quelques versets bibliques sur l'amitié de Dieu envers les hommes. Nous les connaissons bien, mais il est bon peut-être de se les rappeler avant d'entrer en prière pour répondre à l'appel à la prière de Jésus. La première chose que nous pouvons nous rappeler, c'est que à travers ce que l'expérience de Paul qui relie l'Écriture, l'Histoire sainte, nous rappelle combien Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tout le monde infiniment. Tout homme, toute femme de notre humanité est l'objet d'un amour infini. Mais chacun est aimé d'une manière particulière. Vous pourrez relire dans la lettre aux Romains, au chapitre 2, verset 11, ou bien dans la lettre aux Galates, toujours le chapitre 2, verset 6, ou la lettre à Timothée, toujours chapitre 2, facile à retenir. Chapitre 2, dans les lettres de Paul, souvent ça tape sur l'amitié. Chacun est aimé, voilà. Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Dieu. Mais Dieu a une manière d'aimer chacun de manière unique. Unique. Et c'est ce que rappelle toute l'histoire sainte avec les grandes figures qui nous sont données, vous le savez bien. Abraham, au tout début de l'histoire sainte, celui qui se met en route sur la parole de Dieu vers cette terre qu'il ne connaît pas encore, il est appelé ami de Dieu, simplement parce qu'il a cru, non pas parce qu'il a dit « je crois », mais parce qu'il a dit en croyant, en disant « je crois », il s'est mis en route, il s'est risqué totalement dans la parole qu'il recevait de Dieu. Alors, il est ami de Dieu, il est dit « ami de Dieu ». C'est la lettre de Jacques qu'il nous le rappelle si bien. Toujours chapitre 2. Oui, chapitre 2. Tung, tung, tung. C'est une bonne manière de s'en souvenir. Chapitre 2, verset 23 de la lettre de Jacques. Il a cru, c'est pourquoi il a été appelé ami de Dieu. Quel beau titre. Moïse. Moïse, bien sûr. Celui qui va avoir la grâce de parler à Dieu en face à face avec simplicité. Et vous savez, là, c'est le chapitre 33 de l'Exode qui nous dit combien il y a cette relation simple, comme un ami parle à un ami, comme un homme parle à un autre homme dans sa qualité d'homme. Eh bien, Dieu s'entretient avec Moïse, son ami. Ce que reprendra Ignace de Loyola quelques millénaires plus tard, dans ses fameux exercices spirituels, lorsqu'il invitera le retraitant justement à oser lui-même parler avec cette même simplicité, mais cette même franchise avec le Seigneur. Parler au Seigneur comme un ami. Parle à un ami, dira-t-il. Moïse. Il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait en tirer d'autres figures de la Bible. On en restera là, on fera bien sûr, on ne peut pas ne pas s'arrêter à nouveau sur la figure énigmatique du fameux disciple bien-aimé, ce disciple que Jésus aimait, qui se révèle près de lui au moment le plus crucial de la vie de Jésus, au début du mystère de la Passion, au moment de la scène, lui qui est posé sur le cœur de Jésus. Son cœur répond au cœur de Jésus, mettant en application le commandement reçu plusieurs siècles auparavant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il est au plus près. Il sera présent au pied de la croix. Il sera présent dans l'expérience de la rencontre du ressuscité, et c'est lui qui le premier désignera. C'est Jésus, c'est lui. Il est vivant. Disciple bien-aimé que la tradition, bien sûr, identifiera à l'évangéliste Saint Jean, mais encore une fois, il est bon de laisser ce titre ouvert, parce qu'il est une invitation à chacun, justement, de trouver sa place singulière de disciple bien-aimé à son tour. À son tour. Chacun de nous est appelé à devenir disciple bien-aimé du Seigneur. Cette relation d'amitié, voilà, elle découvre cette attitude de sympathie, de profonde sympathie. Aucune concupiscence dans cette relation-là. Mon ami, je l'aime pour ce qu'il est. Et je ne l'aime pas, je ne l'utilise pas pour moi, mais je l'aime pour lui-même. C'est l'introduction, c'est l'entrée dans le mystère, alors de la compassion possible. Pouvoir souffrir avec son ami, pouvoir se réjouir avec son ami, pouvoir partager ses sentiments, non pas pour les récupérer pour mon profit égoïste, mais simplement la joie de partager ensemble. Vous savez qu'il y a ces belles pages sur l'amitié qui viennent des Proverbes et du livre du Siracide, que vous pourrez relire. La douceur d'un ami vaut plus que mes propres conseils. La qualité d'une relation d'amitié, selon la Bible, nous dit cela. Elle me permet de sortir de moi-même et des soliloques que je peux avoir avec moi-même. Les conseils, la douceur d'un ami vaut plus que nos propres conseils. Vous le trouverez au chapitre 27 des Proverbes. Comment ne pas y voir, eh bien, ce qui va se vivre plusieurs siècles, quelques millénaires plus tard, en ce lieu de Paray-le-Monial, avec nos si fraternelles figures de Marguerite Marie et de Claude. Ils vont vivre cette amitié, d'abord dans cette relation que vous connaissez, d'accompagnateur spirituel auprès de cette sœur qui vit des expériences qui la débordent. Mais à partir de l'expérience des trois cœurs que vivra Marguerite Marie, Jésus lui dit combien ils sont donnés comme frères et sœurs dorénavant dans l'union de ces trois cœurs, dans l'union dans le cœur de Jésus. Et à partir de là, la relation n'est plus asymétrique, elle devient, voilà, elle se complète dans l'autre sens. Marguerite Marie va aider Claude. Claude partira rapidement, vous le savez, à Londres pour suivre une autre mission qui lui aura été confiée. Et il tiendra dans cette mission difficile, en particulier avec le soutien de ces petits billets qu'il reçoit régulièrement de Marguerite Marie, qui sent, qui reçoit dans la prière, eh bien, voilà, ce que peut vivre à des centaines de kilomètres de là Claude, et elle lui envoie quelques conseils, quelques encouragements qui permettent à Claude de traverser bien des épreuves, des tentations de découragement, de fuite. Marguerite Marie, d'accompagner, devient accompagnante de Claude. Mystère de l'amitié, d'une amitié qui s'est tissée et qui s'est nouée dans le cœur de Jésus. Il est intéressant de se rappeler que cette amitié entre ce jésuite et cette sœur de la Visitation, en fait, était précédée déjà par une amitié plus institutionnelle entre les jésuites et les sœurs de la Visitation. Quand on regarde les correspondances, on s'aperçoit qu'il y avait cette estime déjà mutuelle entre les jésuites de cette époque et les sœurs de la Visitation. Et c'est certainement aussi par amitié que les sœurs de la Visitation répondront à l'appel des premiers compagnons, eux qui sont venus la première fois en 1619, il y a tout juste 399 ans à Paray-le-Monial. 399 ans, ça nous dit que dans un an, on fera une belle fête. Mais voilà, peu de temps après leur arrivée, ils invitent les sœurs de la Visitation à venir s'établir à Paray-le-Monial pour assurer une présence religieuse féminine durable. Et voilà, dans le déboire des premiers emménagements, eh bien voilà, les lieux ne vont pas être très favorables pour les uns ou pour les autres. En tout cas, il va y avoir rapidement un échange de lieux. Les premiers jésuites vivaient ici, dans cette partie de la ville, et nos sœurs de la Visitation ont commencé à vivre à côté de l'église Saint-Nicolas. Il va y avoir, comme on dirait dans les échecs, un roc qui va se faire, voilà, pour permettre aux sœurs de retrouver un espace, je crois, plus propice, plus favorable pour leur santé. Relation d'amitié, relation d'entraide mutuelle, de congrégation à congrégation, avant qu'il y ait cette amitié particulière qui viendra quelques années plus tard. Claude, dont nous fêtons donc la naissance demain, 2 février 1641. Cet homme si délicat, si sensible de son tempérament, un homme qui aimait les relations, qui avait des amitiés nombreuses du fait, voilà, du parcours qu'il avait déjà effectué pendant sa formation, eh bien, comprend pourtant que ces amitiés ne doivent pas être un barrage dans sa relation avec Jésus. Il est intéressant de voir qu'avant qu'il n'arrive sur Paray-le-Monial, eh bien, il choisit de sacrifier les amitiés ou ces relations d'amitié qu'il découvre pouvant être possessives et emprisonnantes. Il choisit de les offrir à Jésus, de les déposer à Jésus. On en a la trace dans son journal spirituel. Peu de temps après sa grande retraite de fin de formation, du troisième an, où il a exprimé pendant, au cours de cette retraite, son désir d'être plongé dans le cœur de Jésus. Vous savez, il y a ce très beau passage où il est dit, voilà, il est au cœur de sa grande retraite et il découvre que le cœur de Marie et le cœur de Jésus sont vraiment, c'est le lieu, voilà, où tout est donné. Et il a cette très belle expression. Au cœur vraiment digne de posséder tous les cœurs, de régner sur tous les cœurs et des anges et des hommes, cœur de Marie, cœur de Jésus, vous serez désormais ma règle. Et dans de pareilles occasions, je tâcherai de prendre vos sentiments. Je veux que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie, ou que celui de Jésus et de Marie soit dans le mien, afin qu'ils lui communiquent leurs mouvements et qu'ils ne s'agitent et qu'ils ne s'émeuvent que conformément à l'impression qu'il recevra de ses cœurs. Au cœur, voilà, de sa grande retraite, Claude exprime ce désir. On est encore qu'en 1674. Il n'est pas encore venu, il n'a pas encore rencontré Marguerite Marie. Il y a déjà ce désir qu'il habite et qu'il exprime ardemment. Et voilà, alors que cette grande retraite est achevée, il poursuit son journal spirituel et il comprend. Alors qu'il veut être pleinement à Dieu seul, n'aimer que Dieu seul, il a cette exclamation. Mais mes amis, ils m'aiment, je les aime. Vous le voyez, Seigneur, et je le sens. Mon Dieu, seul bon, seul aimable, faut-il vous les sacrifier puisque vous me voulez tout à vous? Je le ferai, ce sacrifice, qui me coûtera plus cher que le premier que je fis en quittant père et mère pour entrer dans la vie religieuse. Je le fais donc, ce sacrifice, et je le fais de bon cœur, puisque vous me défendez de donner part à mon amitié à aucune créature. Agréez-le, ce sacrifice si rude. Mais en échange, mon divin Sauveur, soyez leur ami. Comme vous voulez me tenir leur place, soyez-leur à ma place. Commerce d'amitié de Claude avec son Seigneur, qui comprend que la place du Seigneur ne supporte aucune compétition avec aucune autre amitié, eh bien, il choisit de remettre toutes ses amitiés au Seigneur seul et lui demande d'être l'ami de ses amis. Claude n'est pas encore venu. Mais quasiment dans la même période, eh bien, notre chère sœur Marguerite Marie, elle reçoit au même moment, dans une de ses rencontres, visitation avec le Seigneur, cette parole pour l'affermir, lui donner courage, qui lui dit « Ne crains pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. » C'est à la même période. Des amitiés dans le cœur de Dieu qui se préparent. Je vais t'envoyer mon parfait ami. C'est magnifique de voir comment le Seigneur, voilà, répond. Il répond de manière délicate, non pas en répondant directement à Claude, qui pourrait du coup peut-être être tenté par un péché d'orgueil ou de s'enorgueillir de la réponse du Seigneur? Eh bien non, c'est par Marguerite Marie que nous découvrons que Claude devient et est devenu parfait ami du Seigneur. C'est magnifique, cette grâce qui se répond et qui se donne de proche en proche, de proche en proche. Et Claude, poursuivant sa réflexion et ses méditations, écrira, vous le savez, un peu plus tard, justement lorsqu'il réfléchira à la figure du disciple bien-aimé, eh bien il terminera sa réflexion avec cette si belle prière que vous connaissez. Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Voilà. Suite de l'approfondissement du chemin spirituel de Claude, il découvre et il peut dire, vous êtes le seul et le véritable ami. Et Jésus qui dit au même moment à celle qui deviendra son ami, je vais t'envoyer mon parfait ami, mon parfait ami. Appelé à rentrer dans l'amitié de Jésus, pour être avec lui, pour partager avec lui ce qu'il vit, ce qu'il souffre, ce qu'il va souffrir dans sa passion. Alors peut-être que nous pouvons terminer ce soir, juste avant de nous mettre en route, en prière avec le Seigneur, dans cette attitude de profonde amitié, réécouter cette prière de Claude au véritable ami. En l'écoutant, je vais vous la lire lentement, Claude va décrire, vous le savez, ce que Jésus fait pour lui en tant qu'ami. Toute la docilité, l'attention de Jésus pour son ami. Eh bien, répondre à l'invitation de Jésus de devenir son ami, eh bien, c'est aussi retourner certaines des attitudes que Jésus a pour son ami, eh bien, que nous l'ayons à notre tour pour lui, en particulier dans ce moment si crucial, si déterminant dans l'histoire du salut, le moment de sa passion, être avec lui. Je vous le lis. Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à mes maux, vous vous en chargez, vous avez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu. Vous ne vous éloignez jamais. Et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Jésus, vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre. Vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même ne m'enlèvera point votre amitié. Et la mort, qui nous arrache à tous les autres amis, me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouirai jamais plus de vous plus pleinement. Vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable. Mes infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je veux. Ô Jésus, accordez-moi de le vouloir, afin que je sois tout à vous, pour le temps et pour l'éternité. Oui, Seigneur, ce soir nous voulons répondre à ton appel, répondre à ta demande. Cette fois, Seigneur, ce soir, c'est nous qui voulons prendre part à tes maux, à tes souffrances, nous en charger avec toi, entendre les afflictions qui te blessent, nous trouver avec toi en tout lieu, spécialement dans ce mystère de Gethsémani et de ta passion. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Tu peux toujours nous parler. Nous voulons t'assurer que nous t'aimons, avec tout ce que nous sommes et que nous voulons te faire du bien. Oui, rien ni personne ne pourra enlever notre amitié pour toi, notre désir de rester et de demeurer avec toi jusqu'au bout. Oui, Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons partager avec toi ce mystère de la passion, dans lequel tu obtiens, tu gagnes notre libération, la libération, le salut de tout le genre humain. Oui, Seigneur, entends notre réponse ce soir. Vois notre présence ce soir, toute simple, toute pauvre. Nous voulons demeurer avec toi, parce que tu nous aimes, mais parce que aussi nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Amen.